Ça veut dire on est avec les chimpanzés.
Ah. Épisode 9. Une heure avec les chimpanzés de la forêt ougandaise.
Ah bon, je suis descendu, mais ils sont à 2 mètres de nous là.
Bonjour à toutes et à tous. Une heure au milieu des chimpanzés de la forêt de Sébitoli. C'est l'expérience sonore que je vous propose pour finir cette saison en beauté avec la primatologue Sabrina Krief. Depuis 15 ans, elle suit les chimpanzés de ce bout de forêt à l'ouest de l'Ouganda pour le Muséum d'Histoire Naturelle. Car proclamé capitale des singes, le parc national de Kibale héberge une des plus fortes concentrations de chimpanzés connues au monde. Et grâce au lent et patient travail d'habituation de son équipe, elle nous offre une occasion rare de passer un moment en compagnie de ses cousins, qui nous font réfléchir à notre relation au monde. D'ailleurs, Sabrina Krief préfère les considérer comme des frères, même si elle maintient scrupuleusement une distance pour ne pas interférer avec leur comportement, ne pas interagir et réussir à se rendre inintéressant. Ce qui peut être difficile avec les bébés chimpanzés, si curieux de tout ce qui les entoure, mais c'est à ce prix qu'elle peut relever un double défi, pour apprendre à les écouter et écouter ce qu'ils ont à nous apprendre. Car cette forêt est un formidable laboratoire d'études de la chimie des substances naturelles qui consomment en automédication. En tout, près de 10% des parties des plantes qu'ils sélectionnent composent cette pharmacopée amère, rugueuse ou potentiellement toxique, autant de pistes à la fabrication de nouvelles molécules. Mais c'est pas tout. Si on les observe et on les laisse vivre dans ce qui leur reste de forêt, les chimpanzés ont aussi beaucoup de choses à nous apprendre, de leur communication, leurs relations sociales, leurs outils, leurs jeux et leurs rires, jusqu'à des leçons de savoir-vivre dans un monde aux ressources limitées, à coexister en bonne intelligence, en usager de l'environnement. Mais pour cela, il faut d'abord aller les retrouver au pied de leur nid d'une nuit, avant le lever du jour, pour une parenthèse dans leur vie quotidienne avec Sabrina Krief qui nous parle d'eux, qui nous font réfléchir sur nous. Une heure au milieu des chimpanzés de la forêt de Sébitoli, un reportage réalisé par Clément Nouguier, La clé des singes. On Sunday afternoon around the patch, I pick my baby up and his baby too. We drop into my car and go to the zoo to see the chimpanzee. We bought some peanuts and a couple of snacks, pretty jelly beans and cracker jacks. We always bring along some afternoon snacks to feed the chimpanzee. Baby and I stare with fascination. Secretly, I'm wondering if he just might be a distant relation. Although you laugh and say it couldn't be true, remember he might be a cousin to you. And if you don't believe it, go to the zoo and watch the chimpanzee. Vacant and bare, and so I woke right up and caught up one chair, ate all the peanuts I was planning to share, oh, with the chimpanzee. Even by your giggle, I think it's kind of silly. I can tell you right now, in my situation, I could see that you and me all might be related distantly. When I woke up, I was surprised as could be. There ain't no brothers staring curiously. I saw my baby and the chimpanzee, and they were watching me.
France Inter. Je reviens du monde d'avant.
Voilà, on est parti. 5h30 du matin, c'est ça à peu près?
Oui, 5h30. Et l'idée, c'est d'arriver avant que les chimpanzés se réveillent, au pied de leur nid, pour pouvoir ensuite bien les suivre dans la journée. Les chimpanzés construisent un nid par individu tous les soirs, sauf les mamans qui dorment avec leur plus jeune enfant. Voilà, donc là, on part au réveil d'une quinzaine de chimpanzés. Alors, attention, on sort un peu les pieds.
Alors, c'est des sentiers pour marcher à la queue leu-leu. Là, on est côte à côte.
Et ce n'est que le début.
Oui, c'est pour ça que j'en profite, parce qu'après, ça va être plus...
Après, on essaye vraiment d'être le plus silencieux possible, parce que y a beaucoup d'éléphants dans la forêt. Donc, en pleine nuit, c'est dangereux.
D'accord.
Parce que si on arrive un peu trop près et qu'on est avec un groupe d'éléphantes qui protègent leurs petits, elles ont tendance à être un petit peu agressives et à charger. Ouais. Et comme la forêt est très dense, parfois on arrive un peu trop proche.
Ah oui, donc, avant de les voir quoi.
Voilà, avant de les voir, surtout dans la nuit, et de les entendre. Donc c'est important d'être silencieux.
C'est impressionnant de s'enfoncer comme ça dans la forêt de la nuit pour un blanc-bec comme moi, je vous avoue. Voilà, c'est un petit ponton en bois au-dessus de la rivière. Bien chancelant. Il y a la brume, il fait assez froid. Il y a toutes les odeurs de végétation, de terre et de bouse d'éléphant qui remontent. Et on marche comme ça en file indienne. Et en faisant attention au moindre bruit. Alors là, c'est plus coton là. C'est carrément boueux et puis on voit dans la boue les traces des éléphants.
Une petite boulette de crottin d'éléphant, toute luisante et encore un peu fumante. Et c'est dans ces moments-là que c'est un peu dangereux. Les assistants vraiment mettent leurs mains sur le crottin.
Pour voir la température.
Pour voir s'il est très chaud, un peu chaud. Et là, il était encore bien chaud.
C'est toujours la nuit, là, en plus.
Ouais, c'est là.
Ça rend le truc d'autant plus impressionnant, je trouve.
Oui, mais même l'air est quasiment solide, quoi. Une espèce de brume, on voit toutes les particules en suspension.
C'est pas facile d'aller au bureau pour vous, quand même.
Non.
Sabrina.
C'est sûr que c'est pas la routine métro-boulot-dodo. Il faut être vigilant dès le matin, voilà. Can go ?
On peut y aller, alors. J'espère qu'on va pas avoir à courir ici parce que c'est un champ de boue avec des trous. La vache.
Donc on va pouvoir installer notre petit nid ici en attendant que les chimpanzés se réveillent.
Ils sont près d'ici, c'est ça?
Donc ils sont à quelques mètres. On ne sait pas qui est dans quel nid. Ce matin, la première chose qu'on doit faire au réveil, c'est essayer d'identifier les individus qui sont présents. Mais surtout, la première tâche, c'est de les suivre pour ne pas les perdre dans la journée. Donc là, on essaye de faire le moins de bruit possible pour ne pas les réveiller, pas les perturber, leur laisser leur temps de sommeil. Donc on éteint nos lampes, on s'assied et on refait un petit somme. Comme on n'est pas trop loin, on met aussi nos masques.
Ah oui.
Parce que vraiment, un des risques pour les chimpanzés... lié à l'habituation et au tourisme aussi, hein, c'est contracter des maladies venant des humains. Donc c'est vraiment très important de prévenir ces risques de transmission. Donc on porte des masques tout le temps quand on est à proximité des chimpanzés.
D'accord, je vais mettre le mien là. Ah, ça y est, on voit la première lumière du jour qui sort. Tout le monde est en train de scruter le moindre mouvement dans ces deux arbres qui sont devant nous. Ah, voilà, ça y est, il se lève là. Et hop, il descend.
C'est Ntabou qui est sorti du nid le plus proche et l'autre arbre au fond est en train de...
Ah oui, il s'agite aussi.
S'agiter beaucoup. Donc le chimpanzé Ntabou, c'est le fils...
Voilà. Alors on entend qu'il descend, on voit les branches qui s'agitent.
Voilà, petit réveil matinal sonore. Donc Ntabu, c'est le fils le plus âgé de Kitaka, qui a la particularité justement d'avoir une malformation faciale, donc une face complètement plate et une absence de narines. Et maintenant, c'est un jeune adulte, on va dire, il doit avoir 16-17 ans.
Ah oui.
Il commence à prendre vraiment de la corpulence. Il est très costaud et il est en train de monter en hiérarchie. Et celui qui était au fond, c'est Aragon. Lui aussi, c'est un des fils de Kitaka. Et lui aussi a une malformation nasale. Et en plus, il lui manque un pied. Quand on a commencé à travailler ici, il avait déjà cette amputation du pied. Donc il y a deux hypothèses. Soit à cause des pièges des braconniers, soit une malformation de naissance.
Donc
on
là,
y va, on part.
On
part à la suite des chimpanzés qui sont réveillés.
Et qui vont prendre le petit-déj. On remballe tout. Oh, on les entend de loin, là. Et puis, ils avancent vite. Ouf. Et on arrive devant un énorme arbre, gigantesque.
Ça, c'est un mimosops. Donc ça fait des petits fruits orange quand ils sont mûrs, très sucrés. Les chimpanzés en raffolent.
Mais là, on voit, ils montent à toute vitesse. C'est vachement beau en plus, comme c'est en contre-jour, avec les feuilles de l'arbre. On voit leur silhouette là, qui passe de branche en branche.
Donc complètement à droite, dans le grand arbre, il y a Elliot. Donc c'est le mâle alpha, le mâle dominant. Et puis Kiprotich, qui est un jeune chimpanzé. Alors lui, il a une malformation au niveau du nez, il a complètement la face enfoncée. Et là, on a aussi Kazinga, qui est un autre chimpanzé qui a été vraiment très abîmé par les pièges, lui à la jambe et à la main, donc à deux reprises. C'est vraiment un énorme fléau, ces pièges. Ils ne visent pas directement les chimpanzés, hein. C'est pour attraper du petit gibier, pour attraper des petites antilopes ou des cochons sauvages. Mais les chimpanzés sont les victimes indirectes de ces pièges.
Et là, c'est très impressionnant parce que c'est un arbre assez gigantesque. Et on voit, il y en a combien là? 1, 2, 3, 4.
Donc on a dit Aragon, Ntabu, Kazinga, Elliot, Kiprotich, Butchaman. Donc là, ils sont 6 pour l'instant dans ce grand arbre.
Ah oui, il y en a un juste au-dessus de ma tête, je n'avais pas vu. Ouais. Et là, ils ont crié tout à l'heure. Ils ont fait un peu de bruit, c'était pour expliquer leur contentement ou...
En fait, la communauté de chimpanzés se constitue d'individus qui se connaissent entre eux, qui se fréquentent et qui savent se positionner hiérarchiquement les uns envers les autres. Mais la communauté ne se déplace pas et ne vit pas ensemble. Ouais. Ils se forment des petits sous-groupes qui sont extrêmement labiles et qui changent tout au cours de la journée. Et donc les vocalisations qu'on entend sont des cris qui leur permettent de repérer où sont leurs congénères et aussi de signaler le contexte dans lequel ils sont.
Donc, c'est-à-dire là, on a trouvé un arbre à fruits.
On a trouvé un arbre à fruits.
Le petit-déj est servi.
Et voilà, avec des fruits qui sont vraiment appétants. Et donc les autres leur répondent pour signifier, bah, nous on est environ 60 mètres de vous et on est aussi dans un autre arbre à fruits. Et les chimpanzés sont capables de reconnaître la voix de leurs congénères et de savoir qui est où. Et aujourd'hui, on sait aussi qu'il y a d'autres moyens que vocaux. La communication sonore passe par le tambourinage sur les racines. Et il y a une étude récente qui a montré que certains individus ont un rythme particulier qui permet de les identifier. Et nous, dans le groupe, en fait, on a Aragon, qui est un excellent percussionniste, qui, dès qu'il passe auprès d'un grand aninjaria, qui sont ces arbres avec un immense fût, un grand tronc et des grosses racines qui...
Donc qui résonnent, quoi.
Voilà, un son très très fort. Bah, il tambourine avec ses pieds, ses mains. Et c'est vraiment sa particularité. On a une petite copulation.
Ah bon? Oui. Oh, c'est une petite là, parce que c'est un jeune, tout jeune là, qui s'exerce, on va dire. Qui n'est pas tout à fait. Ah, là, il est en train de toucher l'arrière-train de la femelle, c'est ça?
Voilà, il tapote.
Après avoir tenté une petite copulation.
C'est un apprentissage, quoi.
L'école de la vie pour les jeunes chimpanzés, avant de devenir des mâles adultes.
On continue à cavaler derrière les chimpanzés qui nous laissent les suivre et dictent la marche et les arrêts. Et je les imagine bien rigoler à nous voir ainsi traîner derrière eux qui sont si agiles et en particulier moi, le boulet qui ralentit Sabrina Krief et son mari Jean-Michel et toute l'équipe du Sebitoli Chimpanzee Project. Alors à la pause, on essaye de faire le point, mais c'est pas nous qui décidons où et quand.
Alors moi je suis Jean-Michel Krief, donc je suis le mari de Sabrina et j'accompagne Sabrina depuis le début. On a commencé ensemble, je suis photographe et donc je mets en image un peu tout ce suivi des chimpanzés. Alors j'ai un peu la casquette de photographe de chimpanzés, photographe.
Ça y est, la sieste est finie là. On les voit cavaler là dans les sous-bois.
C'est marrant, c'est qu'il ne se jette pas sur tous les fruits, il les touche, il les sélectionne, et il prend les fruits mûrs. Et donc ça aussi c'est intéressant parce qu'en fait il laisse les fruits qui ne sont pas mûrs pour la prochaine fois.
Est-ce qu'il y en a un qui mangera tout pour lui sans en laisser pour les autres ?
Non, c'est vraiment le partage des ressources. D'ailleurs, quand il vocalise, ça fait venir les autres. Il pourrait très bien manger rapidement tout seul et en profiter. Mais il semble qu'ils ont beaucoup plus de plaisir, on a beaucoup plus d'expression, d'excitation quand ils sont en groupe et quand d'autres les rejoignent pour venir partager les fruits.
Ouais, c'est bien meilleur quand on partage. Chez les chimpanzés, ils aiment bien ça.
Peut-être c'est un truc sur lequel on devrait prendre exemple des chimpanzés, nous autres humains.
Ouais, on a sûrement perdu pas mal au cours de l'évolution.
Je rêve ou je les entends péter ?
Ah oui, non, ils sont assez ballonnés, ils mangent beaucoup de figues, donc ça fermente.
Et là, c'était en direct un pet de chimpanzé.
Voilà, il y a un peu de flatulence.
Spécial pour les auditeurs de France Inter.
C'est des salutations, puisque Elliot vient de descendre au sol, et donc il y avait d'autres chimpanzés qui étaient au sol. Donc quand il passe, il le salue par un grognement qui montre le respect envers le mâle dominant. Donc les autres ont suivi, hein. On a déjà Kiprotich qui est descendu, on a deux, trois autres chimpanzés qui ont suivi, et certains qui vont sûrement rester là. Ça c'est vraiment le système social des chimpanzés, fission-fusion. Donc on a vu certains qui rejoignaient le petit groupe qui était là au départ, et là... On va partir à la suite d'Eliott et certains vont rester dans le Mimousops à finir de manger leur premier repas.
Donc il va falloir le suivre à la trace pendant toute une partie de la journée.
Oui, et ça c'est pas le plus facile parce que Elliot donc est le mâle dominant et il est très très actif. Il bouge beaucoup, il va très vite au sol.
Donc, parce que ça fait un bout de temps que vous le connaissez du coup, alors si c'est mâle dominant.
On le connaît en fait depuis qu'on est arrivé ici, donc en 2008. Il est mâle alpha. Ça c'est assez exceptionnel. Donc c'est un règne assez long puisqu'en général les mâles alpha sont au pouvoir pour 3-4 ans,
et rarement après, ils sont destitués.
Voilà, et donc nous on a pratiquement 3 quinquennats. Donc ce qui est assez exceptionnel. Probablement parce que Elliot est un mâle assez consensuel, donc qui est vraiment apprécié de ses congénères. Par exemple, quand il n'est pas dans le sous-groupe et qu'il vocalise, qu'il n'est pas très très loin, souvent les autres descendent à toute vitesse pour aller le rejoindre. Donc il y a vraiment
un charisme, quoi.
Un charisme, et puis ouais, une cohésion de groupe qui est générée par Elliot, et lui-même va à la rencontre des sous-groupes. Donc c'est pour ça qu'il faut être en bonne forme pour pouvoir suivre Elliot.
Ah là là, vachement, tout près. Il nous a jeté un petit coup d'œil discrètement et il a toute vitesse là, en sautillant à quatre pattes dans les sous-bois.
Oh, les chimpanzés n'ont pas des pattes, hein. Ils ont oui. Des bras et des jambes et des mains et des pieds.
Doucement, la lumière commence à être un peu plus chaude. On voit un peu plus loin. La brume se lève. Et les papillons aussi. Là, là, on voit qu'il a l'air plus petit. Il est suspendu par une main, il attrape avec l'autre main, hop, et il saute. Il attrape un fruit, et là, maintenant, il très agilement, il gambade en s'aidant de ses pieds et de ses mains, en avant, en arrière, et hop, il remonte sur une autre branche pour aller trouver. Il doit être tout petit, ces fruits, parce que je les vois pas, lui, nu, là.
Oui, en fait, on a toujours l'impression que la forêt tropicale, c'est... une abondance extrême de fruits très riches, très juteux, très sucrés. Ben non, c'est plutôt des petits fruits fibreux et pas très sucrés, dispersés un peu partout. Et c'est pour ça que la grande majorité du temps de la journée des chimpanzés est passée soit à chercher à manger, soit à s'alimenter. Mais s'alimenter, ça veut dire picorer des petits fruits de 1 cm ou 2 cm de diamètre.
Il faut vraiment manger toute la journée.
Voilà, le coût énergétique est vraiment fort parce qu'ils se déplacent sur des longues distances au sol. Ensuite, ils font des ascensions dans des arbres de 30 ou 40 mètres. Tout ça en interagissant socialement, donc en se coursant, en se poursuivant. Donc il y a beaucoup d'énergie dépensée pour un gain calorique qui est finalement assez faible.
Et ces chimpanzés, ils sont complètement omnivores, non ?
Alors, ils mangent à peu près toutes les parties de plantes. Donc, ce qu'ils préfèrent sont les fruits, mais ils mangent aussi tous les jours des feuilles, des tiges, et puis des aliments d'origine animale. Donc, du miel, par exemple. Ici, ils mangent pas de fourmis et pas de termites, mais par contre, c'est quelque chose qui est fait dans d'autres communautés. Puis parfois, ils chassent. Donc, c'est une chasse collective pour attraper ici des petits singes d'une autre espèce, des singes à queue. Des colobes guéréza, ce qui est assez particulier parce que dans les autres communautés étudiées dans le parc, ces colobes-là ne sont pas consommés par les chimpanzés. Donc ça fait vraiment partie des choses qui nous intéressent aujourd'hui, c'est de voir les comportements culturels, donc ils peuvent être alimentaires mais aussi sociaux, et les différences entre groupes. Donc ça n'est pas expliqué par l'environnement, ce n'est pas expliqué par la génétique puisqu'ils sont voisins, mais c'est des comportements qui se transmettent au sein d'un groupe, d'une génération à l'autre et qui se maintiennent. Donc ça c'est la définition des cultures animales. Et aujourd'hui on essaye de faire une sorte d'ethnographie des cultures des chimpanzés.
Et ça c'est fascinant quand même.
C'est assez extraordinaire.
Ça donne une toute autre ampleur à l'étude de ces animaux, c'est-à-dire plus simplement de voir l'éthologie, quoi, mais de voir la culture.
Oui, et ça c'est aussi quelque chose qui est très important en termes de conservation, puisqu'aujourd'hui il ne s'agit pas de conserver une espèce avec des individus qui sont interchangeables, mais bien de conserver des groupes, des communautés, et puis des individus qui sont capables de transmettre ces comportements. Parce que si on décide de compenser la destruction d'une partie de la forêt en protégeant une autre à 100 ou 200 km de là, on aura perdu ces comportements culturels qui nous apprennent non seulement sur les espèces animales qui nous entourent, mais aussi sur notre évolution. Donc comment nos cultures ont émergé, comment elles se sont diversifiées, comment elles se sont maintenues. Donc c'est pas anodin d'étudier l'espèce la plus proche de l'homme, donc les chimpanzés qui partagent un patrimoine génétique important.
C'est pour 90, combien de pourcents ?
99% de notre ADN, mais aussi des comportements. C'est pas juste de la matière organique, c'est aussi des comportements, de comprendre comment ils se transmettent, ils se maintiennent, ils se diversifient, comment il y a de l'innovation. Et ça, c'est assez extraordinaire et ça fait partie vraiment des choses nouvelles de l'étude des animaux, des intelligences animales. Ce qui fait la particularité des chimpanzés, c'est la diversité de leur culture. C'est-à-dire que pour la plupart des espèces, on connaît un ou deux ou trois comportements culturels ou un ou deux outils. Ce qui est extraordinaire chez les chimpanzés, c'est que dans une même communauté, on voit une utilisation de plusieurs types d'outils, plusieurs comportements culturels, et entre les groupes, à quelques dizaines de kilomètres, on a aussi une diversité. Et donc ça, c'est assez fabuleux de les apprendre et d'essayer de comprendre, de les interpréter, parce que c'est pas toujours évident.
Non.
Par exemple, ici, à Sébitoli, les chimpanzés déchiquettent des petites feuilles qu'ils crachent pour faire comme des sortes de confettis. Et ça, avec le temps, on s'est rendu compte que c'était un signal qui permet de communiquer sexuellement, en fait, l'attirance envers un autre individu.
Donc c'est un peu les mots doux, quoi.
Voilà, c'est faire des petits confettis pour montrer l'intérêt vis-à-vis d'un partenaire. C'est fait par les mâles, mais c'est aussi pratiqué par les femelles.
Et c'est fait ici, c'est-à-dire on va à 200 km d'ici, le comportement ne sera pas nécessairement reproduit.
On va juste à 10 km dans la communauté voisine de Kanyawara où on a travaillé avant. C'est pas un comportement qui existe et qui est répandu. Donc quand on est arrivé ici et qu'on a vu les chimpanzés faire ça, il nous a fallu du temps pour étudier les contextes et pour voir le résultat de ces petits confettis, voir que l'accouplement arrivait ensuite et l'intérêt du partenaire était suscité pour le comprendre. Donc ça c'est vraiment formidable parce que quel que soit le groupe qu'on va étudier, on sait qu'on va découvrir des choses nouvelles.
Il y en a combien ? J'ai l'impression qu'il y en a une vingtaine là, de chimpanzés.
Entre renseigner auprès des assistants qui, pendant qu'on papote...
Oui, c'est ça, eux, ils bossent. Moi, je vous fais parler, je vous fais perdre votre temps. Et eux, ils sont en train de consciencieusement noter sur leur registre qui est là, qui fait quoi. Je vous suis parce que sinon, je serais complètement perdu dans cette forêt de Sébitoli, ici dans l'ouest de l'Ouganda, pas loin des Grands Lacs, dans ce pays qui aime à se faire appeler la perle d'Afrique. Et vu d'ici, je vous avoue que c'est pas usurpé. Ah, les voilà. Ils sont en train de regarder les chimpanzés dans l'arbre au-dessus d'eux, avec leurs jumelles.
France Inter. Je reviens du monde d'avant.
Ils pensent que la forêt leur appartient. Ils se croient chez eux, ils ne respectent rien.
Dans la forêt, il n'y a plus de sentier là, donc c'est assez compliqué, et on entend de proche en proche les voix des chimpanzés qui vaquent à leurs occupations. Et voilà, ils ont trouvé un nouvel arbre.
Suite de notre reportage avec la primatologue Sabrina Krief dans la forêt de Sébitoli, au nord du parc national de Kibale en Ouganda, autour de 1500 mètres d'altitude, dans une des plus riches biodiversités au monde. Et même si cette jungle où nous nous trouvons n'est plus primaire, elle se régénère depuis 50 ans qu'elle est protégée. Ce qui n'est d'ailleurs pas sans poser des problèmes de cohabitation avec les populations tout autour. On a même installé des ruches en bordure de forêt pour tenter de repousser les éléphants qui viennent saccager les plantations tout autour. Car eux aussi sont à l'étroit dans cette réserve qui s'arrête net sur des kilomètres de champs sans aucune zone tampon. Et les éléphants, pour nous aussi en ce moment, c'est un souci constant. Alors que les chimpanzés, eux, profitent d'un moment de calme bien mérité.
Là, ils sont tous au sol, là, allongés. Ils se reposent, ils sont descendus de l'arbre. Et ce qu'on essaye de faire, là, c'est de pas trop les déranger. On les laisse se reposer. Il faut qu'ils soient calmes, qu'ils soient pas gênés par notre présence. Donc, on va essayer d'éviter de faire des mouvements brusques. Et on va rester groupés, voilà, pour les laisser se reposer au sol. Puis on peut en profiter aussi pour nous aussi nous reposer un petit peu, parce qu'on est levé depuis 4h30.
Là, il est quelle heure, là?
Et là, il est 11h moins le quart. Ouais.
C'est un petit moment qu'ils nous font crapahuter.
7 km déjà. Il y a Aragon aussi.
Ah, il y a Aragon. Mais Aragon est arrivé plus tard. Il a vraiment une superposition. Il est allongé par terre. Il a juste mis le pied, un de ses pieds en l'air, sur l'arbre, en appui. Donc il est vraiment...
À la fraîche, quoi.
Il est vraiment cool, ouais. Cool à la fraîche.
Les doigts de pied en éventail.
Ouais, exactement, ouais.
Il se repose au pied de l'arbre.
Après un bon petit déjeuner.
Ça, c'est les feuilles du Ficus exasperata dans lequel ils sont.
C'est rugueux,
des feuilles très très rugueuses. Donc parfois ils mangent les figues de cet arbre, les fruits du ficus. Et donc parfois ils mangent les feuilles rugueuses de Ficus exasperata, qui est aussi utilisé ici par les populations locales comme papier de verre. Donc ça donne une idée un peu de la rugosité pour se déparasiter. En fait, ça fait comme une espèce de velcro qui arrache les parasites du tube digestif. Donc ça, c'est un comportement d'automédication qui a été remarqué assez rapidement au début de l'étude des chimpanzés, parce qu'en fait, ils ne mastiquent pas les feuilles, mais ils avalent tout rond. et souvent le matin à jeun, ce qui fait un effet purge efficace. Ouais. Et 6 heures après, on retrouve des morceaux de feuilles ou les feuilles entières dans les crottes avec les parasites qui sont expulsés en même temps.
Et là, c'est impressionnant, il y en a juste au-dessus, nous, on est vraiment en dessous, quoi.
Et ce qui est aussi assez incroyable, c'est qu'ils ne détruisent pas leur arbre. C'est-à-dire qu'ils vont pas. Ce serait beaucoup plus facile, hein, de casser, ouais, la branche pour attirer à soi les fruits. Mais en fait, comme les fruits ne sont pas mûrs de façon synchrone, s'ils cassent la branche, demain ou après-demain, il n'y aura plus de fruits. Par contre, dans certains arbres où les fruits sont synchrones, ça leur arrive de casser la branche pour pouvoir manger l'ensemble de la grappe de fruits. Voilà, il y a vraiment une connaissance très fine de leur environnement. Donc ça, on l'a découvert aussi avec évidemment l'automédication, puisque ce sont des quantités extrêmement faibles qui sont consommées à des moments très particuliers. Et eux sont vraiment un moyen très intéressant de nous guider vers ces plantes plus rapidement. Et ça a apporté ses fruits, puisqu'on a trouvé des molécules à activité antipaludique, à activité anticancéreuse, antihelminthique, donc contre les parasites digestifs, grâce à eux.
C'était la pharmacognosie ?
Non. La zoopharmacognosie.
Ah, j'étais pas loin.
C'était à peu près ça, mais pas dans le bon ordre. Ouais, c'est un mot un peu compliqué pour dire que c'est la connaissance des propriétés pharmacologiques des plantes qui sont utilisées par les animaux pour arriver à isoler et identifier les molécules pour éventuellement après s'en servir pour la médecine humaine.
Et ça, c'est vraiment un terrain sur lequel vous avez travaillé de longues années, vous avez beaucoup ouvert de perspectives nouvelles.
Donc, je suis vétérinaire de formation, donc l'idée c'est vraiment d'essayer de détecter tous les indices qui montrent que l'individu est malade, de le suivre, de voir ce qu'il consomme et ce qui est différent de la consommation des individus sains, pour ensuite pouvoir travailler sur la chimie et la biologie de ces parties de plantes, et si éventuellement elles peuvent être utilisées comme modèle pour répliquer ces molécules pour la médecine humaine. Parce que évidemment, il n'est pas question de raser la forêt pour essayer de mettre au point des traitements pour les humains, mais bien de s'inspirer de ces molécules pour essayer de les synthétiser en laboratoire.
La pharmacopée des grands singes. Ah oui, ils sont repartis, donc il faut se remettre sur leurs traces. Ah, c'est des orties. Quand on dit géant, ça fait 2,50 m de haut. Et puis on voit les gros piquants d'ici, quoi.
Ça brûle énormément.
Si tu veux bien entendre un éléphant là, qui est en train de barrir. Bon, il est assez loin, là, il est à quelques centaines de mètres. Mais bon, voilà, il va rester vigilant et voir s'il ne se rapproche pas trop de nous.
Oui, là, on accélère parce qu'on est en train de se faire s'aimer. Faut pas aller trop vite parce que c'est semé d'embûches. C'est très impressionnant parce que les sons, je vois plus aucun singe ici. Un seul là, l'une de l'arbre. Mais les sons viennent de partout autour de nous. Et on les voit pas. Enfin, et moi, je les vois pas, pardon. Correction parce que Sabrina Krief et Jean-Michel Krief et puis les assistants du Sebitoli Champesit Project sont en train de noter consciencieusement l'heure. Et les chimpanzés, leurs noms, leurs actions, leurs interactions. Mais moi qui suis là dans cette forêt où je vois des bruits de partout, des pris complètement dans la végétation, j'entends ces cris qui viennent de gauche, de droite, au-dessus. Et c'est très très impressionnant. Descendre, mais ils sont à 2 mètres de nous là. Qu'est-ce qui s'est passé là?
Donc, on était avec Elliot et Ntabou au pied de l'Inficus où ils étaient en train de tranquillement manger. Puis il y a d'autres individus qui sont arrivés au sol, donc en criant et en faisant des displays. Donc évidemment, Elliot est descendu sans mêler.
Pour montrer que c'était lui le chef.
Voilà, et les autres ont crié, donc des cris de peur. Hein. Donc là, on vient d'entendre un pangrun, donc une salutation. Donc on va voir qui est arrivé, parce que pour l'instant, on n'a pas vu, j'étais dans les broussailles.
Puis on entendait vraiment les voix qui venaient de la droite et à gauche, sans rien voir. Et tout d'un coup, on voit Elliot qui descend, mais à 2 mètres de nous. C'est assez agité quand même.
Ah oui, quand ils sont nombreux et qu'il y a pas mal de mâles comme ça, souvent, il se passe pas mal de choses. Ouais, on s'ennuie pas.
Et du coup, on passe dans des sous-bois parce qu'Eliott est parti, donc on continue à le poursuivre. Passer sous des troncs, passer sur des troncs. Avec des grosses épines. Et des lianes et des branches. Et ça monte.
Il vient de taper sur le sol. Il me collait trop là, ça veut dire.
Ouais, c'est ça, c'est une petite manifestation.
Il y en a un autre qui est arrêté.
Le Butchaman.
C'est marrant parce que là, on est vraiment en train de marcher sur un petit sentier dans les sous-bois. Et puis, c'est les deux chimpanzés qui nous ouvrent la voie. Ils s'arrêtent de temps en temps. Alors, on s'arrête aussi pour garder la distance. Là, ils nous regardent.
Jean-Michel, tu peux venir ? Tu peux venir là ? Là, on voit la femelle Kenzo, qui est la dernière à avoir mis bas dans la communauté, donc avec son dernier petit. On ne sait pas encore si c'est un mâle ou une femelle. Il a à peine un mois.
Et on voit sa petite main là, qui est accrochée dans l'aine de sa mère.
Ouais, puis on voit un peu son petit visage, tout rose, avec beaucoup de poils sur la tête et très peu sur le dos et le ventre. Et ses autres enfants, donc il y a Koji, Woody et Kinome. Donc en fait, quand les nouveau-nés arrivent, nous, ce qu'on essaye de voir vraiment, c'est si leur nez est normal, si leur visage est pas mal formé. Et puis bien sûr, d'essayer d'identifier le sexe. Et l'année dernière, on a eu beaucoup, beaucoup de naissances. Et donc celui-là a un nez quasi parfait. Ouais, avec des vraies narines.
Là, on le voit bien, là, le tout petit. Mm. Sabrina Crève, dites-moi pourquoi vous recherchez des malformations sur le visage ? Parce que ça, c'est un souci qui est apparu ces dernières années.
En fait, ouais, c'est vraiment un des seuls endroits où ces malformations ont été décrites, puisque c'est congénital, hein, ces malformations arrivent chez les nouveau-nés. Et comme la zone est entourée d'activités humaines, on a mis à jour une vingaine de pesticides, donc un cocktail assez détonnant, dans l'eau des rivières.
Y compris du DDT, de l'agent orange.
Oui, exactement, plus du glyphosate. Donc l'étape d'après, ça a été de mettre en évidence que les chimpanzés avaient ces pesticides dans leur organisme. Et c'était très compliqué vu que c'est de prendre des poils pour essayer de détecter ces pesticides. Donc ça a pris un an et demi. John, notre assistant, est monté dans les nids des chimpanzés.
Qui sont, on l'a vu, assez haut dans les arbres.
Exactement, donc pour récupérer les poils que les chimpanzés perdent de nuit. Et là, on a trouvé 60 pesticides différents. Il y a 60 pesticides qui peuvent donc avoir un effet sur l'organisme des chimpanzés.
C'est-à-dire que même ici, où on se penserait dans une nature préservée, etc., les activités humaines arrivent à polluer la faune et la flore.
Ouais, c'est assez inquiétant et c'est aussi pour ça qu'on essaye d'alerter les villageois, hein, puisque on est les plus proches parents des chimpanzés. On a aussi sur les caméras trappes des images de babouins avec des malformations aussi nasales. On sait que c'est uniquement les pesticides auxquels ils sont exposés. Donc il y a aussi des chances pour que ces malformations puissent toucher les humains.
Ça veut dire qu'encore une fois, l'étude des sociétés chimpanzés peut servir aussi aux sociétés humaines.
Oui, exactement. C'est-à-dire que la santé de l'environnement, la santé des animaux et la santé des humains sont extrêmement liées. Et que quand l'une d'elles est déréglée, bah, souvent ça se répercute sur les autres. Et donc là, l'idée, c'est de réparer la santé de l'environnement pour faire en sorte que humains et animaux ne soient pas exposés à ces produits perturbateurs.
Et là, en l'occurrence, ces chimpanzés rendent service aux villageois. Parce que voilà, c'est eux qui sont comme on dit souvent, les canaris dans la mine de charbon. C'est-à-dire que c'est eux qui sont les indicateurs, quoi.
Ouais, ils servent vraiment de sentinelles, de signaux d'alerte. Encore faut-il que les villageois et les consommateurs soient au courant. Parce que le thé qui est planté à proximité de la forêt des chimpanzés, c'est pas du thé qui est consommé localement, c'est du thé qui est exporté et qui arrive dans nos tasses en Occident. Et c'est bien pour ça qu'on essaye de mettre en place un projet d'agriculture durable, bio en agroforesterie, et qu'il génère des bénéfices économiques pour les fermiers supérieurs à ce qui existait avant, et qui protège la santé à la fois des consommateurs, des producteurs et de la faune sauvage autour.
Et voilà comment la vétérinaire de formation primatologue de terrain
est obligé aussi, pour pouvoir garder son objet d'étude, de s'impliquer dans les réseaux de distribution, de production, de marché, à destination des pays occidentaux.
Oui, c'est un travail assez éclectique, on va dire. Ouais. Mais c'est pas obligé, hein. C'est pas, je suis pas forcée. Mais évidemment, ça me semble...
C'est les chimpanzés qui ont fait tomber un truc à côté de nous.
Oui, sûrement peut-être une crotte ou un morceau de branche. Et on a Elliot qui descend à quelques mètres de nous. Ouais.
Et puis il est derrière les arbres.
Aujourd'hui, on estime qu'il ne reste plus que 200 ou 300 000 chimpanzés dans les forêts africaines.
Donc, c'est-à-dire dans le monde ?
Dans le monde, puisque les chimpanzés ne vivent qu'en Afrique. Hein, c'est une des 7 espèces de grands singes. Et bah, la première cause de disparition, hein, c'est la disparition de leur habitat. Et la première cause de disparition de leur habitat, c'est l'expansion de l'agriculture. Voilà, donc ces chimpanzés, ils sont en quelque sorte emblématiques de cette forêt tropicale. C'est des espèces qu'on peut considérer comme porte-drapeaux qui peuvent nous aider à prendre conscience de la disparition de ces forêts. Donc on se retrouve dans un espèce d'îlot forestier entouré de zones agricoles, de thé, de plantations de bananes, d'eucalyptus, donc de monocultures. Minimède et désherbant, donc ça veut dire plus d'insectes, plus de papillons, plus de rongeurs, plus d'oiseaux pour favoriser la dispersion des graines. Et bah, oui, c'est angoissant de voir petit à petit des lambeaux de forêt disparaître et puis de se retrouver isolé comme ça. Mmh. Donc il faut aller plus loin et il faut concilier la lutte contre la déforestation, l'agriculture bio et le commerce équitable. Il faut trouver un moyen de freiner cette frénésie de coupe de la forêt et de concilier développement économique et développement humain avec préservation de la biodiversité.
C'était quoi, c'est vous ?
En fait, c'est nos cris, pour, comme un peu comme les chimpanzés, hein, pour signaler l'endroit où on est. Et donc, quand on fait deux fois... Ça veut dire on est avec les chimpanzés. Ah. Et une fois, c'est où êtes-vous ? Donc là, c'était Wilson qui finissait ses observations sur les chimpanzés qui sont restés dans le Mimosops, qui nous cherchait, donc qui nous a localisés et qui sait qu'on a les chimpanzés.
Et voilà comment, en plus d'étudier les chimpanzés, Sabrina et Jean-Michel Krief se mobilisent avec l'association Projet pour la conservation des grands singes et une équipe de 25 Ougandais pour trouver des solutions de coexistence entre humains et non-humains, avec des actions de sensibilisation des enfants de la région, des patrouilles pour désamorcer les pièges de braconniers et même des aides pour convertir les paysans à l'agroécologie sans les pesticides qui semblent être la cause des nombreuses malformations congénitales observées chez les chimpanzés. Car il y a urgence, leur population a diminué de 70% au cours des 50 dernières années. Raison de plus pour profiter au maximum des quelques instants qui nous restent à les écouter vivre dans leur monde fragile. Car ce sont nos contemporains, nous qui sommes aussi des grands singes. D'où cet air de famille et des expressions faciales et des mimiques que nous autres humains comprenons et décryptons très bien. Et eux aussi en font de même avec nous.
Ça fait un peu plus d'une heure qu'on les suit, puis leur pause déjeuner.
Ouais, ils sont au sol, ils se poursuivent un peu, ils se reposent. Ils bavardent.
Ouais, une raison de plus pourquoi ils sont passionnants et pourquoi vous y consacrez. Et c'est pour ça que dans votre bouquin, vous vous dites que c'est des frères, c'est pas des cousins.
Ouais, on sent vraiment de leur famille et pour moi, cousin, c'est même trop éloigné. Et cette fraternité, en fait, elle a aussi pour vocation d'essayer de susciter de l'empathie envers eux, pas uniquement moi, mais les autres humains, pour montrer, oui, à quel point on est capable de se comprendre. Et voilà, si on arrive à les comprendre, essayons de les protéger. Labano mwana gozala bwavuma mukuru bwavuma mukuru ngatamutyamu twaliranya
mayumba meme tezalirana twaliranya mayumba. Ils sont où là? Ah, ils ont bougé à nouveau. Je vois plus la silhouette que j'ai attrapée. Ah si, le voilà. juste dans les branches. Il nous regarde vers nous, puis il se gratouille le ventre en regardant le ciel. Et il a le dos au soleil.
C'est Kazinga.
Kazinga. Mm. On entend des feuilles qui bougent de l'autre côté, à gauche. Et là,
là on a deux jeunes, une juvénile qui joue avec un enfant.
Waouh. Impressionnant, comme ils sautent d'une branche à l'autre, là.
Ouais,
c'est des cabrioles.
Ah, c'est le cinéma.
Ah ouais, là, c'est l'heure du jeu pour les jeunes.
Ils jouent, on dirait, on a presque l'impression qu'ils jouent pour nous, là, pour nous faire une démonstration.
Pour montrer tout ce qu'ils savent faire.
Ouais, ouais, pour montrer leur agilité dans les arbres.
Il est suspendu, là, par les bras, au-dessus des autres. Après avoir mangé, après avoir siesté, c'est l'heure du jeu.
Exactement. Pour les jeunes, c'est l'heure du jeu, et les adultes se reposent. Alors là, on a une adolescente, Koji, elle a 10-12 ans. Elle a bien joué avec son petit frère.
Là, ils chatouillent, hein. Ils sont tous les deux corps à corps. Et la grande chatouille le plus petit.
Exactement comme on ferait nous avec un petit. Hop, ils redescendent. Très délicatement, avec des toutes petites branches.
Donc les mères, elles sont pas loin. Elles gardent un œil quand même sur les jeunes. Il y a vraiment des gymnastes.
Hein. On les envie, là. Ah, ouais. Nous qui sommes tellement balourds dans cette forêt. De se prendre dans les racines, les branches et les lianes.
Ouais, eux, ils ont vraiment une facilité à se déplacer de branche en branche. Alors qu'en plus, les petits peuvent aller vraiment sur le bout des branches sans que ça casse. Regarde comment ils montent. Voilà, hop, et là, voilà, ils vont se lancer, ils vont se jeter, ils vont se taper dessus, ils vont se mettre des coups de pied. Donc, ils sont heureux, là.
Et c'est vrai que là, c'est comme si on était devant un jardin d'enfants et qu'il n'y a absolument rien à faire de notre présence, qui nous ont complètement oubliés.
Voilà, ce qui est quand même le signe d'une habituation qui est vraiment aujourd'hui très bien faite, c'est que même les petits jouent juste à côté sans qu'on les gêne. Les mères ne sont pas inquiètes de savoir qui joue en face de nous.
On entend les rires. On entend les rires.
Tu te rends compte que Rabelais avait tort. Le rire n'est pas le propre de l'homme.
Mais c'est bien la philo, parce que non, mais il y a quand même aussi l'arrière-fond philosophique de toute cette recherche sur l'humanité de l'homme et l'humain et le non-humain. Sabrina Krief.
Bien sûr, la place de l'homme dans la biosphère, là, c'est au cœur de nos interrogations et cette barrière qu'on a voulu ériger, ce piédestal sur lequel on a mis l'espèce humaine, est en train de s'effondrer. Et on se rend compte que on partage bien plus que ce qu'on pensait avec les autres espèces animales, avec le chimpanzé notamment, mais avec d'autres espèces animales. Et donc quand on aura accepté ça, peut-être qu'on arrivera à vivre en meilleure harmonie, et pas juste à essayer d'exploiter les animaux pour l'humanité.
Ce qu'il dit ?
Là, il semble qu'on ne soit pas sur la trace des chimpanzés, mais sur une trace d'éléphant.
C'est mauvais signe.
Disons qu'il vaut mieux éviter de la remonter jusqu'au bout.
Parce qu'on risque de tomber sur l'éléphant.
Voilà.
Il y a donc un éléphant pas loin. Les branches ont bougé, tout le monde est à l'arrêt, les oreilles tendues, mais prêt à cavaler.
I see a movement. Yes.
Ouais, c'est confirmé, ils sont bien là. Okay. Alors nous voilà obligés de lever le camp pour éviter de se retrouver nez à trompe avec les éléphants. Un grand merci en tout cas à Sabrina Krief, Jean-Michel et toute l'équipe du Sebitoli Chimpanzee Project qui nous ont accueillis. Merci surtout à Elliot, Entabu, Kazinga, Kenzo, Butchaman, Aragon et tous les cousins chimpanzés pour leur généreuse indifférence. La clé des singes avec les chimpanzés de la forêt de Sebitoli, un reportage réalisé par Clément Nouguier que vous pouvez retrouver comme tous les autres épisodes en podcast sur le site de l'émission, avec aussi un lien vers l'association Projet pour la conservation des grands singes de Sabrina Krief, ainsi qu'une version vidéo de ce reportage pour mettre des visages sur les cris entendus aujourd'hui. Je reviens du monde d'avant, c'est fini pour cette saison, on baisse le rideau pour cet été, je vous donne rendez-vous tous les mois de la saison à venir pour de nouveaux reportages grand format dans la Terre au Carré avec Mathieu Vidard et Camille Cronier que vous retrouverez dès lundi. Et samedi prochain à la même heure, c'est Thomas Legrand qui vous attendra pour une nouvelle saison d'Enquête de politique.